Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour, 7h10. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'était RMC, c'est le week-end des experts. À partir de 8h, l'automobile avec Jean-Luc Moreau, comme chaque dimanche, 8h-10h. Mais pour l'instant, nous sommes au cœur de notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Tout à l'heure, nous découvrirons la finale du trophée du meilleur chat qui a eu lieu hier après-midi au Salon de l'Agriculture. On parle de chats au Salon de l'Agriculture aussi, Laetitia.
Il y a un concours agricole des chats.
Eh bien, dites-moi.
On connaissait les vaches et les moutons et les cochons.
Mais il y a aussi des chats.
Il y a aussi des chats, bah oui, il faut le savoir.
Et puis on découvrira le make-off, en fait, en quelque sorte, du documentaire Muriel Robin et Chani sur la terre des bonobos tout à l'heure aussi.
Voilà, on aura Chani, qui est le fondateur de l'association Calaouette, au téléphone.
Voilà. Et puis, bien sûr, vos questions animaux au 32-16. Dans un instant, Laetitia, on découvrira un chien étonnant qui arrive à détecter les fuites de gaz.
Oui.
Ça, c'est fou quand même.
Ben, c'est très utile.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais auparavant, on va découvrir cette grande course de chiens de traîneau qui s'appelle le Lécarode.
La Lécarode.
Ou la Lécarode, pardon. C'est mieux. Ouais, ouais.
Et nous sommes avec le docteur Dominique Grandjean-Cri, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, fondateur et directeur de course de la Lécarode. C'est donc cette course de chiens de traîneau qui va débuter le 11 mars, c'est-à-dire samedi prochain, jusqu'au 19 mars en Savoie. Bonjour Dominique, merci d'être
avec nous.
Bonjour Dominique.
Alors, elle va débuter donc samedi à Bonneval-sur-Arc et Bessan. Alors, c'est 34 attelages, voire 50, hein, j'ai entendu en coulisses, qui vont partir. Ce sont quand même des attelages parmi les meilleurs du monde. Il y a plus de 600 chiens, c'est ça?
Oui.
Alors, présentez-nous, elle a les carottes.
C'est une course qui est relativement nouvelle, hein, puisqu'on a fait une édition zéro en 2015 et puis la première édition l'année dernière. L'année dernière, on avait une vingtaine d'attelages, donc on monte en puissance. Ce qui est un bon signe parce que ça veut dire que les mushers sont intéressés et en règle générale, ils vont sur les courses qui ne sont pas dangereuses et qui, deux, sont intéressantes pour eux au plan ludique parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner sur notre course.
Ils aiment bien la France, les Alpes.
Ils aiment bien la France, ils aiment bien les Alpes et surtout, je crois, les choix de stations et de pistes qu'on a pu faire parce que ce qui est fondamental dans une course de traîneau à chiens, d'abord, c'est que les chiens prennent leurs pieds. Et pour que les chiens soient heureux, il faut que les pistes soient de qualité et qu'elles correspondent à ce pour quoi ils sont faits.
Alors justement, on parle de bien-être, santé des chiens. C'est quelque chose qui est primordial aussi dans cette course. C'est un peu le souci au quotidien.
Oui, je crois que là encore, c'est quand on parle compétition, on peut pas empêcher l'être humain de vouloir systématiquement gagner, alors que ce soit un trophée, une médaille, de l'argent, que sais-je. Donc pour nous, il est essentiel en fait de maintenir le respect des chiens de façon à ce que l'esprit de compétition existe, certes, parce que c'est un sport, ces chiens sont des sportifs de haut niveau, mais en même temps, on veut pas faire tout et n'importe quoi.
Et ça passe par quoi, ce respect?
Ça passe par un règlement très carré, d'abord. Ça passe ensuite par une équipe de vétérinaires présents 24-24. J'ai toujours géré les choses comme ça sur toutes les courses dont j'ai eu l'occasion de m'occuper depuis maintenant, mon Dieu, 35 ans. Mm-hmm. Et à partir du moment où on a en plus des vétérinaires qui sont compétents, qui sont investis dans le sport, qui ont la confiance des concurrents, tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur et on n'a pas de problème.
Alors, je sais que aussi vous dites que vous respectez les chiens, ce qui est très bien. Et vous respectez la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une course de chiens de traîneau, on peut couper les arbres ou embêter les animaux sauvages. Ça veut dire quoi?
Je crois que personne n'imagine la difficulté qu'il peut y avoir dans un pays comme la France à monter une compétition de ce type. On va sur 7 sites différents. Sur ces sites, on a des zones dites Natura 2000, des zones de protection de nature, des parcs nationaux, et donc il faut faire très attention déjà à ne pas pénétrer sur ces territoires-là, et très sincèrement, c'est pas marqué à l'entrée, hein, vous avez... voilà. Donc il y a des tétras, il y a tout un tas d'animaux sauvages, donc on fait attention à ça, ce qui veut dire le moins de machines possible, bien évidemment. Donc, on travaille avec les gens du CRU pour respecter ces règles-là. Pas d'hélicoptère, pas de choses comme ça. Donc, voilà, c'est respecter la nature, c'est finalement faire en sorte que, au niveau d'une course comme celle-là, bah, il y ait les chiens qui passent avec les traîneaux et des humains, mais le moins de mécanique possible.
Alors, ce qui étonne toujours quand on va voir ces courses, c'est que on se dit bon, chien de traîneau, on va voir des huskies, voir des malamoutes, et en fin de compte, on voit beaucoup de chiens qui ressemblent à des chiens de chasse. Et d'ailleurs, vous avez deux mascottes. C'est marrant parce que d'habitude les courses ont une mascotte. Là, vous en avez deux avec ouais. deux chiens, un qui ressemble à un husky et un qui ressemble à un chien de chasse.
Oui, alors déjà on a deux mascottes parce que dans le passé, j'ai eu l'occasion d'être chef veto pendant des années sur une d'autres grandes courses alpines, et que sur cette course étaient nés deux chiots, et cette course s'appelait à l'époque l'Alpirode, et les deux chiots avaient été appelés Alpirode. Alors comme on a recréé les carodes, et ben on s'est dit les mascottes on va les appeler Leka et Rode. Leka ça veut dire chien en vieux savoyard, hein. Et on a effectivement respecté la parité qu'on retrouve sur notre course, c'est-à-dire que 50% à peu près exactement de nos attelages sont des attelages dits nordiques, et 50% sont des attelages d'Alaskan Husky ou d'Eurohund. Et l'origine de ces hunds, c'est-à-dire de ces chiens qui sont très typés chiens de chasse, vient du fait qu'en Scandinavie, le sport de traîneau à chien s'est développé à partir du chien de chasse. Les gens partaient à la chasse en ski de fond avec leur chien de chasse qui traînait une petite barquette où ils mettaient le matériel. Ils en ont fait un sport. Et donc, autant en Alaska, au départ, c'était du chien nordique, autant en Scandinavie, à la même période, ils évoluaient avec du chien de chasse. Donc, tout ça s'est retrouvé parce que le sport s'est internationalisé. Et puis maintenant, bah, il faut pas s'étonner de voir des chiens différents participer à des compétitions.
Ils ont pas froid. Alors, non, mais c'est la question que posent les gens, parce que évidemment. Quand on voit des huskies, on se dit bon, bah ça va, ils sont voilà, ils ont ce qu'il faut. Par contre, quand ils voient les chiens de chasse avec le poil court, oh, ils disent oh les pauvres petits.
Bah, chez nous, ça va parce que les températures, bon, on sait qu'il va faire un petit peu plus froid à partir de la semaine prochaine, mais on va avoir.
Tant mieux pour vous.
Oui,
hein.
Tant mieux pour les chiens surtout.
Parce que là, il fait
doux.
On va
avoir -8, -10. Maintenant. Si vous allez regarder ces chiens-là courir en Norvège, en Suède ou en Finlande, ben vous verrez que les gens leur mettent des petits manteaux et que quand ils courent, on a l'impression qu'ils sont en pyjama parce qu'ils ont effectivement la combinaison comme le fondeur de base, quoi.
Alors, dites-nous un peu les distances parcourues chaque jour parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on n'imagine pas ce que c'est.
On a voulu une course qui soit friendly, comme on dit, et donc on est sur des distances qui vont osciller entre 40 et 45 kilomètres par jour, ce qui peut sembler énorme. Cool. Hein, ça fait un marathon par jour concrètement pour des humains, mais il faut savoir que le chien, d'une manière générale, et le chien de traîneau en particulier, a ce qu'on appelle une VO2 max, c'est-à-dire une consommation maximale d'oxygène, ce qui conditionne la capacité d'endurance, qui est à peu près 3 fois supérieure à celle de l'homme. C'est-à-dire que si on prend un marathonien de très haut niveau, il a une consommation d'oxygène à 85 millilitres minute kilo, et un chien de traîneau, il est à 220-230.
Donc, c'est incroyable.
Donc ses capacités d'endurance sont sans commune mesure. Preuve en est, Lydie Tarod a pris le départ, en l'occurrence hier. C'est une course qui fait 1800 kilomètres, et les chiens vont faire là 200 kilomètres par jour, sans aucun problème en plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Physiologiquement, le chien est fait, oui, ces chiens sont faits pour l'endurance.
Ils sont faits pour ça, voilà, c'est ça.
Et ce qui est étonnant quand on regarde le départ d'une course, c'est que les chiens, ils veulent y aller.
Ouais,
quoi.
C'est,
et d'ailleurs, ils sont déçus s'ils sont pas pris dans l'attelage du jour. C'est incroyable parce qu'ils poussent, ils poussent, ils poussent sur la ligne de départ.
C'est des questions auxquelles on répond souvent. J'ai encore ce matin un tôt répondu à quelques questions sur notre page Facebook Les Carodes, que je vous invite à aller aimer.
Allez, bien sûr.
Attention, ça s'écrit L-E-2-K-A-R-O-D. Hein, voilà.
Et donc les gens disent, mais est-ce qu'ils sont malheureux? Et très franchement, on a fait des études, hein, parce qu'on en profite aussi pour essayer de faire avancer un petit peu la science ou la connaissance de ces chiens, pour parfaitement démontrer que le stress, entre guillemets, subi par les chiens de traîneau était très, très, très inférieur à celui d'un Yorkshire qui reste tout seul toute la journée dans un appartement. Hein. Donc, il faut que les gens en soient convaincus. Ces chiens sont heureux quand ils courent, et la meilleure façon de le démontrer, c'est de regarder un départ.
Alors justement, si on veut voir cette cour, alors il faut se rendre cette semaine en Savoie. Quelles sont les étapes,
samedi 11, on part à Bonneval-sur-Arc avec une arrivée à Bessan, Haute-Maurienne Vanoise. Le dimanche 12, là j'encourage les gens à monter sur Bessan parce que c'est un départ en ligne et ça c'est magnifique. Le 13, on est à Bramant, toujours en Haute-Maurienne. Le 14 et le 15, on est à Valoir-Galibier. Le 16-17, on est à Saint-François-Longchamp. Et le 18-19, c'est le jour de mon anniversaire, Laetitia.
Oh
voilà, on
le termine. Le petit message
subliminal, qui est bien passé, bravo.
On termine aux saisies dans le Beaufortin.
Voilà.
Parfait, merci.
Et puis
beaucoup.
Il y aura des animations pour le public.
On fait un truc vraiment bien aussi sur Bessan, c'est que pour la première fois on va lancer en fait dans le cadre de la Fédération française la discipline handisport. Et donc on a aménagé, c'est pas facile, on a trouvé des gens qui nous ont aidé à aménager des traîneaux pour faire en sorte que des handicapés moteurs soient autonomes sur le traîneau, et on va faire démonstration du fait que des handicapés peuvent faire du traîneau à chien.
Merci beaucoup Dominique.
Merci. Alors restez avec nous parce qu'on va parler de chiens qui vous intéressent.
Ah.
Ces chiens qui détectent.
Les fuites de gaz.
On va parler des chiens détecteurs et peut-être dire un mot aussi sur les chiens détecteurs de cancer.
Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Les animaux, à tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h21, nous sommes de retour, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Dans un instant, la météo et les infos de 7h30. Laetitia, on va maintenant découvrir, franchement, quelque chose de passionnant. Un chien qui arriverait à détecter les fuites de gaz.
Eh oui, c'est un Malinois, comme par hasard. C'est un peu la Ferrari des chiens quand même, les Malinois. Et ça, je pense que Dominique et Sidi Drissi, qui était aussi avec nous, le dira. Sidi, vous êtes dirigeant d'une entreprise de plomberie, d'électricité et de chauffage.
Bonjour.
À Melun.
Bonjour.
Et vous avez un chien, un Malinois, et même une Malinoise, puisqu'il s'agit d'une chienne qui s'appelle Ila, qui est capable de détecter les fuites de gaz. Alors c'est quand même très intéressant pour votre travail. Alors comment est née l'idée de dresser un chien pour détecter les fuites de gaz?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis un ancien agent de chez GRDF, donc Gaz de France. J'étais responsable de réseau sur la commune de Melun et Savigny-le-Temple. Et ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises, on mettait des temps, exaspérants, de trouver la fuite de gaz, en fait.
Et mais vous avez des
outils pour ça, des détecteurs.
Oui, effectivement, il y a des détecteurs, il y a des véhicules, mais ils sont très très loin d'être aussi performants que le flair du chien.
D'accord.
Et donc j'en ai parlé à plusieurs collègues. Au début, on marionnait. Vous savez comment que les idées naissent. Hein. Je vais pas vous apprendre tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis donné 4 ans pour mettre ça en place. J'ai travaillé à peu près 20 heures par semaine et au jour d'aujourd'hui, j'ai des résultats qui sont pratiquement à 100%. On va dire que quand avec GRDF on cherchait une fuite, on mettait à peu près entre 7 et 10 jours. Avec ILA, on met entre 10 et 15 minutes.
Donc
ça a vraiment rien à voir.
Et le choix du Malinois est un choix raisonné.
En fait, ouais, tout à fait, parce que bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Malinois est, on va dire, la Formule 1 des chiens. Hein. Et ce qui se passe, c'est que le Malinois aime vraiment travailler. Je veux dire, il est en demande permanente. Mmh. Et peu importe l'heure.
C'est un jeu pour elle.
Ah bah c'est un jeu, c'est tout à fait. Elle, son but, c'est de rendre fier son maître. Donc dès l'instant en fait que je travaille avec le Malinois, elle ce qu'elle veut c'est juste en fait avoir des récompenses, avoir des caresses, surtout avoir beaucoup d'amour. Et ce qui se passe, c'est que dès l'instant que moi je suis fier d'elle,
Comment ça se passe en fait vous suspectez qu'il y a une fuite de gaz, donc vous prenez votre Malinois et d'un coup comme ça elle va se diriger vers la fuite.
Ce qui se passe, c'est que moi j'ai travaillé sur le non pas sur l'odeur mais sur les molécules. Parce que à la base
le gaz c'est un mélange de molécules.
C'est un mélange de molécules. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Gaz de France met un odorant dedans.
Pour qu'on le sente. Parce qu'autrement c'est inodore.
Tout à fait, pour que l'humain le sente. Exactement.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Mais elle sent même quand nous on le sent pas.
Tout à fait.
Et elle arrive à trouver la source, ce qui est le plus important, source de cette fuite.
Tout à fait. En fait, le travail le plus dur qui a été à faire en fait, c'est de lui faire comprendre que moi je recherchais la fuite et non l'odeur. Donc si vous préférez, au début on a fait donc plusieurs essais et elle s'est arrêtée sur des odeurs, mais on n'était pas à 100% gaz. Et moi ce qui m'intéressait c'était la provenance. Mais le problème c'est que c'est souvent des canalisations qui sont enterrées.
Et
donc
oui.
Dès l'instant que le chien marque, à savoir que nous il faut qu'on creuse. Donc
oui, il faut qu'il marque bien, hein, parce que sinon vous allez faire beaucoup de trous dans le jardin.
Voilà, vous avez tout compris. Mais généralement, on va dire sur 10 tests, elle en a réussi 8, mais haut la main, à une vitesse.
Elle marque comment?
Bah en fait, soit je lui demande d'aboyer, ou soit je lui demande de se coucher.
D'accord.
Et suivant ce que je lui demande, bah en fait, elle agite-t-elle.
Et donc, quand elle sent la source de la fuite, ouais. Elle s'arrête ou elle aboie.
Ou elle aboie, ouais.
Et elle vous montre.
Tout simplement. En fait, je lui dis, cherche et aboie. Donc, elle cherche et elle aboie. Sinon, je dis, cherche et couche. Elle cherche et elle se couche. Et donc, ça veut dire que la fuite, en fait, elle est, on va dire, sur un périmètre entre 1 mètre et 2 mètres par rapport à là où elle gratte.
Est-ce qu'une fois, vous êtes intervenu pour autre chose, pas pour une fuite, et qu'elle l'a marqué, enfin, qu'elle vous a étonné, parce qu'en fin de compte, elle a senti qu'il y avait un problème?
Bah, le problème, en fait, c'est que dès l'instant qu'on se balade dans la rue, elle est tellement habituée à chercher les fuites de gaz que ça devient un automatisme.
C'est vrai?
Ouais. Donc, le problème, c'est que dès l'instant qu'il y a une moindre fuite ou même rien qu'une molécule qui se balade, bah, forcément, elle marque et elle gratte.
Et elle marque souvent parce qu'il y a souvent des fuites parce qu'à Paris, il y a pas mal d'immeubles avec du gaz, hein.
Non, le problème, c'est qu'il y a énormément de fuites. On se rend pas compte, sur le réseau. Voilà, bah vu les canalisations, vu l'âge qu'ils ont, à savoir qu'entre le chaud et le froid, les canalisations travaillent, donc ça crée énormément de fuites. Et ce que je voudrais dire, ce que je mettrai surtout en avant, c'est que donc moi j'avais 5 personnes en recherche de fuites chez GRDF et on utilisait beaucoup de produits assez chimiques pour rechercher des fuites, des appareils, qui coûtent honnêtement très 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 cher. Voilà, il y a des véhicules de recherche, ça demande du personnel. Et ce que je comprends pas là aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler avec un chien qui nous rapporte énormément de résultats. Et en plus de ça, qui est fiable et qui ne fait rien pour l'environnement. C'est surtout ça,
qui est écologique.
Qui est très écologique.
Mais ils sont pas intéressés à Gaz de France par ces chiens-là?
Le problème, c'est que j'ai eu un contact. J'aurais aimé travailler avec eux. Et malheureusement, ils m'ont jamais rappelé. Voilà. Et là, j'ai un contact en fait qui vient de l'étranger. Moi, je suis français. J'aurais aimé exploiter ça en France. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que mon idée va se voyager. En fait, mon idée va voyager tout simplement.
Quoi. D'accord.
Bien sûr.
Et je trouve ça même, excusez-moi le terme, un peu honteux. En fait. Qu'un talent français parte à l'étranger. Et malheureusement, je suis pas le seul dans ce cas-là, quoi.
Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes quand même le spécialiste des chiens de travail.
Ce qui est certain, c'est que l'idée, elle va pas quitter la France, parce que quand j'entends ça, je me dis que pour nous, au niveau des pompiers de Paris, avoir des chiens de détection de fuite de gaz, c'est un plus. Donc l'idée, je la prends et je garderai le contact, clairement.
Ah oui. Alors, et ça vous étonne quand même? Pardon.
On va poursuivre dans un instant, si vous voulez bien. Il est bientôt 6h30, on va retrouver la météo et les infos. C'est vrai que c'est un sujet passionnant, hein. Est-ce que les chiens peuvent détecter d'autres odeurs que nous, on n'arrive pas à détecter? On en parle dans un instant. 3216, animaux@rmc.fr, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux.
Laetitia, tout va bien? Vous n'avez pas de problème de respiration?
Non, pas
tout,
du tout.
Tout se passe bien.
Ouais.
C'est l'heure de la question flash.
Oui.
En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Françoise qu'on a reçue par mail, animaux@rmc.fr. Françoise qui nous dit, j'ai 2 poules depuis peu, elles pondent dans le même nichoir et du coup, il y a de la casse et une omelette. Comment faire pour que chacune ponde dans un nichoir différent, Laetitia?
Eh ben, je sais pas, moi.
Ça, c'est de la question.
Faut mettre une poêle dans le nichoir et oui. Après, direct sur le feu avec un petit peu d'herbe, un petit peu de fromage.
C'est ça.
Hein?
D'accord.
Bon, voilà.
Ouais, c'est bien. Merci, Laetitia. Bonne question.
Alors, faut savoir que souvent, les poules, elles ont ce réflexe, un petit peu atavique, de pondre dans le même nichoir. Elles veulent absolument,
être à côté.
Voilà, être dans le même nichoir. D'accord. Et de pondre là où l'autre a pondu. Alors, c'est normal, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en mettre d'autres nichoirs pour qu'elles aillent autre part. Mais le problème n'est pas là. Le problème est pourquoi les œufs cassent.
Ah.
Alors, soit ils cassent parce qu'il n'y a pas assez de paille dans le nichoir. Mm-hmm. Donc, du coup, ça tombe sur quelque chose de dur et...
Bah, oui.
Soit parce que la coquille est trop fine et du coup, ça veut dire qu'elle manque de calcium. Donc il va falloir leur donner un complément minéral et vitaminé pris chez le vétérinaire pour leur donner du calcium, ou alors des coquilles d'huîtres broyées. Ça aussi c'est vendu en... Soit encore, elles ont des plumes sur les tarses. Et ça casse les œufs, ça.
Tiens.
Il faut leur couper les plumes sur les tarses.
Eh bien, dites-moi. Il ne faut pas se tromper de plumes, c'est ça le compli. C'est ça,
non,
ce qui est compliqué.
C'est les plumes qu'il y a sur les pattes. Hein.
Sur les pattes.
Les doigts, voilà.
D'accord.
Il y a des plumes, des races qui sont avec des plumes, et le problème, c'est qu'elles cassent les œufs.
D'accord. Et si on fait tout ça, tout va bien.
Tout va bien.
Eh bien voilà, écoutez, maintenant vous êtes un collab sur les poules, tout comme nous. 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite.
RMC, c'est au 3216.
45 centimes la minute.
Et au 73216.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
8h25, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bon dimanche. Merci d'être là. Jusqu'à 8h, notre veto nous réveille. Et vous pouvez joindre à tout moment Laetitia Barlerin, qui m'accompagne jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour 2h dédiées à l'automobile, vous le savez. Laetitia, nous parlons ce matin de ces chiens étonnants qui arrivent en fait avec leur odorat qui est véritablement très très fin à détecter des odeurs que nous on ne sent pas. On a parlé à l'instant avec notre invité de justement de ce chien malinois qui arrive à détecter les fuites de gaz, mais on peut aller beaucoup plus loin en fait.
Voilà, toujours avec Sidi Drissi qui est dirigeant d'une entreprise de plomberie, électricité et chauffage à Melun et qui a un chien, un malinois détecteur de fuites de gaz, et avec le docteur Dominique Rangean qui professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et qui est sapeur-pompier, donc qui est intéressé aussi par ces chiens détecteurs de gaz.
Oui, clairement, parce que c'est des situations, situations qu'on rencontre fréquemment au niveau des pompiers. Hein,
mais c'est étonnant qu'ils sentent des molécules, et certaines molécules, vous disiez...
C'est pas étonnant.
C'est pas étonnant. je vois que la Lécarode, donc la grande course que vous dirigez, est associée à un projet qui s'appelle CADOG. Et ce projet, c'est le projet de dresser des chiens détecteurs de cancer.
Oui, en fait, on va essayer de promouvoir du mieux qu'on peut le mois de mars une jonquille pour Curie, hein, qui est l'appel au don de l'Institut Curie. Et au sein de l'Institut Curie, il y a un projet qui s'appelle CADOG. Et ce projet, c'est la mise en place de chiens de détection ultra précoce de cancer du sein.
Et ils ont donné les premiers résultats cette semaine. On a 100% de
première cohorte de 130 femmes et volontaires et 100% de succès. Mais c'est pas surprenant.
Pour le cancer du sein, je précise.
Pour le cancer du sein. La difficulté pour le cancer du sein, en fait, c'est qu'il faut que les chiens soient capables de dépister, en fait, une odeur qui est spécifique.
Une odeur.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui sont produites par le processus tumoral, mais que ça passe en transcutané, donc que ça ressorte au niveau de la sueur. Par contre, on a déjà l'hôpital Tenon, là, il y a depuis 5-6 ans, avait deux chiens de l'armée de l'air qui avaient été formés au dépistage précoce des cancers de la prostate, en leur faisant sniffer, comme on dit, de l'urine, et ça marche. Nous, on a un essai au niveau de l'école vétérinaire d'Alfort sur le dépistage des cancers du côlon, mais qu'on mène au Liban parce que je vais faire dans le politiquement incorrect, mais les lobbies médicaux analytiques sont quand même très durs à combattre dans notre pays. Hein.
Les chiens font peur?
Non, c'est pas ça du tout.
C'est les labos qui veulent pas qu'ils aient une concurrence des chiens.
Le dépistage précoce du cancer du côlon, par exemple, se fait par des processus d'hémoculture à partir de l'âge de 50 ans. Mm-hmm. 650 millions d'euros par an pour la sécurité sociale, pour un test dont la fiabilité, n'importe quel spécialiste vous le dira, et pas absolu. Bon, alors avoir en face de ça des chiens qui finalement coûtent beaucoup moins cher, mais qui détruisent ce process analytique, c'est sûr que ça fait lever les boucliers.
Et qui sont plus efficaces en plus.
Mais oui, parce que
c'est quoi, c'est du 100% ou...
On est tout proche de 100%.
Dans les analyses fonction des chiens de détecteurs de cancer, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui sont détectés par les chiens. À chaque fois, on est entre 88 et 98%, voire 100% pour le test cette semaine.
Si on prend ce qui fonctionne au quotidien depuis des années, c'est-à-dire le dépistage d'explosifs dans les bagages. le chien est, les résultats obtenus par le chien sont sans commune mesure avec toutes les machines qu'on pourrait mettre en place et qui coûtent des millions et des millions d'euros. Donc je pense que monsieur va le confirmer. On est dans un pays, contrairement aux anglo-saxons où les choses se développent très vite, on est dans un pays qui a une vision du chien qui est complètement différente. C'est-à-dire la France est
on
moins...
prend pas au sérieux ce genre de piste?
On les prend au sérieux quand la vraie démonstration scientifique est faite. Et c'est ça, je trouve, ce qui est intéressant dans le projet CADOC de l'Institut Curie, c'est que, à compter de dorénavant, ils vont mettre en place une vraie étude scientifique.
Ça va peut-être changer la donne, ça, non?
Ça peut changer la donne, ça va prendre un peu de temps, mais lorsque les publications vont sortir, il y a des chances que ça fasse évoluer les choses. Mais pour revenir à ce qu'évoquait monsieur sur les fuites de gaz et le côté plombier de la chose, aux États-Unis, vous avez des sociétés avec des chiens qui font du dépistage de fuites d'eau, partant du principe que les fuites d'eau, c'est des eaux usées, et que dans les eaux usées,
il y a des odeurs,
la flore fécale, etc., etc., et que c'est facile pour le chien de travailler ça. On a des chiens de dépistage de pollution biologique. On a, en Scandinavie, vous avez des sociétés qui vous font de la recherche d'allergènes, de champignons microscopiques dans les maisons. Enfin, je veux dire, actuellement, dans le domaine médical, le nez du chien devient un outil dans tout un tas de pays.
C'est-à-dire le potentiel olfactif en fait du chien est presque sans limite. Quand on n'arrive même pas à se rendre compte jusqu'où il peut aller.
Ouais, je crois. Enfin, on va pas comparer. Classiquement, c'est combien de fois meilleur par rapport à l'homme. C'est pas ça. Le chien est capable de trouver. L'exemple, ce serait de dire, je prends une goutte simplement d'un produit chimique sur lequel le chien est formé. Je le jette par la fenêtre d'RMC Info ici, pouf, sur le sol. Un chien va être capable de dépister ça sur l'ensemble de la surface parisienne. Voilà. C'est-à-dire que s'il est à l'autre bout de Paris,
C'est dingue, ça.
Si, c'est possible.
Une goutte.
Oui, parce que concrètement, il lui faut quelques molécules. Alors que nous, pour réagir, il nous faut des millions et des millions de molécules.
C'est vrai.
Donc, voilà.
Est-ce qu'il a d'autres odeurs?
Je vais vous donner un exemple. Pour les entraînements, en fait, le plus dur qui a été, c'était de trouver des terrains, en fait, pour entraîner Ila. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain, ce qu'on appelle est pollué, c'est que dès l'instant qu'on a travaillé sur un terrain, je peux plus y retourner avant 5 mois. Parce qu'en fait, il y a tellement de nos odeurs qui sont restées sur place que dès l'instant que vous êtes sur place, votre odeur, vos molécules restent 5 mois.
Ça pollue l'environnement. Donc,
voilà. Et ça veut dire que je pouvais plus travailler dessus. On va dire que dans une forêt, j'allais cacher, un flacon de gaz. 4-5 mois après, je lâchais ma chaîne et je demandais de chercher. Et ce qui se passait, en fait, c'est que c'était flagrant. C'était comme si il y avait une ligne rouge qui l'amenait,
D'accord.
Je veux dire, c'était même plus du travail. C'était d'une rapidité qui était énorme. On a fait aussi le test, de mettre une personne dans une salle.
Oui.
Et on a pris une lingette neutre. On l'a juste, en gros, balancée dans l'air. Après, on a mis 10 personnes en face. Donc, j'ai demandé à Ila de chercher
les
molécules.
Ouais,
voilà,
ouais.
Je lui dis, tu cherches et tu aboies. Elle s'est présentée devant la personne et elle a aboyé.
Alors que la lingette n'avait pas touché la personne,
non,
en fait.
Non, elle n'avait pas touché. Juste dans l'air. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que moi, comment j'ai eu mon plus gros déclic, c'est qu'on fait plus confiance à la technologie aujourd'hui, et c'est ça qui me rend dingue, qu'à la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des millions de satellites qui valent des millions, des milliards, qui sont dans l'espace, et malheureusement, le tsunami, personne n'a vu. Par contre, les animaux, ils sont remontés. Donc, excusez-moi le terme, mais moi, je serais même d'avis que même dans les écoles, qu'il y ait des classes nature et qu'il y ait tout ça qui revienne, parce que on a énormément de choses à apprendre de la nature. On est à des milliers et milliers de kilomètres de la technologie qui est aujourd'hui. Pour moi, la technologie d'aujourd'hui, à par rapport à la nature, est ridicule.
D'accord. Passionnant tout ça. Hein.
Si vous m'y autorisez, juste en 30 secondes pour aller dans le sens de monsieur. Hein, on parle du chien aussi et de la médecine. Dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, eh bien, il y a déjà de l'applicatif qui est en place. C'est-à-dire que si vous allez au Mozambique ou dans ces pays-là, ou en Angola, il y a beaucoup de tuberculose. Eh bien, la tuberculose, normalement, pour la dépister, il faut faire un expectorat qu'on met en culture pour avoir du bacille de coque au bout de 4 mois et ça coûte une fortune. Ces gens-là, maintenant, ont des chiens. Les gens vont simplement donner leur expectorat, le chien va sniffer et on est à 99,9% de résultats pour un coût qui est plus qu'abordable pour ces pays-là. Et le dépistage des cancers du sein dans l'avenir, eh ben c'est aussi ça, c'est aller vers les pays qui n'ont pas d'argent, eux, parce que dans nos pays à nous, il est clair que de toute façon, on restera face à des lobbies financiers qui sont trop puissants.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Oui, mais en plus, c'est qu'une partie, en fait, du business des labos qui est remis en cause. C'est la détection. Mais après, il faudra soigner les personnes parce que les chiens ne soignent pas les personnes.
De toute façon, quand, par exemple, sur un cancer,
ça pourrait
du
même
sein,
être une bonne chose pour eux parce qu'on détecterait peut-être plus de cancers et donc on en soignerait plus et on achèterait plus de produits.
L'intérêt, c'est financier.
On les dépisterait plus tôt. Et dans le cas d'un dépistage positif, ce qui sera fait par le chien, sera fait de toute façon, c'est une mammographie derrière. Ça évite simplement les mammographies systématiques qui coûtent une fortune à la sécurité sociale.
Il faut les faire, mais
qui ne sont valables que lorsque la lésion est visible à la radio. Et le chien, lui, il va la choper avant qu'elle ne soit visible à la radio.
Quelques cellules, je crois, quand c'est suffisant.
Oui, voilà, tout à fait.
Merci beaucoup, Sidi.
Merci
Dominique. Et puis, merci pour ces témoignages. C'était très intéressant. Merci.
Laetitia, dans un instant, nous aurons la propriétaire de Safran, qui est une chatte de 8 ans, qui a gagné le trophée du meilleur chat au Salon de l'Agriculture. Marie-Pierre sera avec nous, c'est la propriétaire de cette chatte. Et puis, juste après, on découvrira ce documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur France 3. Muriel Robin et Chani sur la terre des bonobos. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts et des animaux. Bon dimanche, merci d'être là. Laetitia, on va au Salon de l'Agriculture?
Eh ben on y va, parce que
l'avantage, c'est que nous, on n'est pas loin.
Voilà, il se termine aujourd'hui, donc c'est vraiment la dernière chance, là, aujourd'hui.
Voilà. Et nous avons avec nous Marie-Pierre François. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour
Marie-Pierre. Alors, vous êtes éleveuse de chats norvégiens et votre chatte, qui s'appelle Safran, vient de gagner le concours agricole, c'est ça?
C'est ça, c'est l'équivalent du concours agricole pour les chats qui s'appelait le trophée des reproducteurs du Louf.
Alors, elle a gagné ce concours hier, donc au Salon de l'Agriculture. Alors, comment vous avez réagi à l'annonce des résultats et qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres chats?
J'étais très contente et très fière de ma minette, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de gagner ce trophée sur le Salon de l'Agriculture en plus. Hein, c'était la première fois que c'était organisé pour les chats. Et ça regroupait des chats non seulement qui étaient beaux, mais qui en plus avaient des qualités de santé et de descendance. Hein, c'était pas juste un concours de beauté. Et ce qui a fait la différence pour Safran, c'est que justement, elle a une descendance qui est extraordinaire déjà à 8 ans. Et c'est ça qui a fait la différence avec ses concurrents.
Oui, voilà. Parce que c'est la première fois que sont récompensés les meilleurs chats. Alors, inscrits dans le système de qualification des reproducteurs, c'est quoi ça?
Alors, le système de qualification des reproducteurs, c'est un système qui a été mis en place par le livre d'origine, le Louf, depuis 2015, qui consiste à répertorier et à noter dans les documents généalogiques des chats, dans les pédigrés, leurs tests génétiques de santé. Donc, s'ils sont atteints par des maladies génétiques, ou plutôt s'ils ne sont pas atteints, ce qui est le but quand même, leur filiation génétique, donc être sûr que leurs parents sont bien leurs parents, et également leur
résultat. Pourquoi il y a des...
Disons que si on vous dit que votre chat, ses parents sont négatifs pour telle maladie, mais que vous n'êtes pas sûr que ses parents sont ses parents. Vous n'êtes pas sûr que le test, il est vraiment négatif.
Vous faites quoi? Des tests de paternité? Des tests ADN?
Des tests de filiation ADN. Ouais. En fait, c'est une garantie supplémentaire, on va dire. Hein. Donc, si vous voulez, ce système-là, le SQR, va apporter des garanties supplémentaires aux acheteurs de chatons. En leur disant, oui, vos chatons, les parents sont bien les parents, ils sont bien négatifs pour telle maladie, vous avez une garantie de santé en plus.
C'est vrai que beaucoup de personnes disent, non, je ne veux pas un chat de race parce qu'ils sont malades.
Exactement. Et ça, c'est vraiment une erreur, puisque c'est une idée totalement préconçue. Hein. Là, sur le concours, sur les 10 chats qui étaient sélectionnés en finale, il y avait quand même un chat de 11 ans, c'était un chartreux. Il y avait un chat de 10 ans, c'était un birman. Safran, elle a 8 ans. Enfin, il y avait des chats qui étaient vraiment d'un âge tout à fait, pas avancé, mais enfin correct, et absolument pas fragile, dépistés pour les maladies génétiques, leur descendance tout à fait saine aussi. Donc je pense que ça apporte justement un petit changement par rapport aux acheteurs qui pensent que le chat de race est fragile, et ça n'est pas le cas. Ce système-là va permettre d'assurer, on ne peut jamais être sûr à 100%, ça reste du vivant, mais que les chats qui rentrent dans ce système ont des garanties de santé et aussi de beauté.
Et de, voilà. aussi de beauté. Pourquoi est-ce si important de participer à ce concours en tant qu'éleveur ? Est-ce que parce que pour vous, un bon éleveur, c'est celui qui participe à des concours de beauté ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est celui qui essaie de promouvoir sa race et de promouvoir une race saine et belle dans le standard. Ça passe par les concours parce que il faut garder à l'esprit quel est le standard de la race. Et quand on n'est jamais confronté à des juges qui vont vous dire votre chat il a tel défaut, les races perdent leur qualité morphologique. Mmh. Donc si on veut garder un chartreux qui ressemble à un chartreux, un norvégien qui va avoir un bonnet droit, des pattes costauds, un profil droit, il faut qu'à un moment il y ait des comparaisons avec d'autres chats pour qu'on se rende compte soi-même comment évoluent nos chats et qu'on sélectionne les bons. Ça n'est pas du tout obligatoire. C'est une démarche totalement volontaire. Donc, voilà. Après, il y a des tas de beaux chats. Il y a des chats qui ne passent pas devant les juges qui sont très beaux. Je pense que c'est une volonté délibérée des éleveurs qui souhaitent apporter des garanties supplémentaires à leurs acheteurs de chatons. Ça n'est pas obligatoire. Hein. C'est une démarche volontaire.
Bon, ça va. Sinon, Safrane, elle a bien supporté le salon de l'agriculture parce que, franchement, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde.
Tous ces flashs, etc.
Il y a beaucoup de flashs, il y a beaucoup de lumière. C'est vrai qu'on... C'est pas trop stressant pour un chat.
C'est stressant pour les chats, mais en même temps, encore une fois, là, ce sont des chats qui n'étaient pas des novices en termes ni d'exposition ni de présentation au public. Ils étaient dans leur petit stand bien bien protégés dans des aquariums isolés d'un point de vue acoustique.
Comment vous dire ça,
hein, une cage en verre.
Voilà.
Qui les isole du bruit, qui était important pour eux. Et par contre, la présentation au public devant une foule comme ça au salon de l'agriculture, c'était difficile pour les chats, mais ça s'est bien passé. Je pense que le public a été content de voir les chats de près. Je pense que c'était intéressant aussi pour le public.
Bah, ça change des vaches.
Parfait.
Merci
Marie-Pierre.
Marie-Pierre François.
Et félicitations, félicitations à Safrane.
À Safrane. Voilà. Merci beaucoup. Bah oui.
Un chat des forêts norvégiennes. Merci.
Voilà. Merci au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
C'est un joli chat, ça, Laetitia.
Magnifique.
Oui.
Alors c'est un chat. Alors
long.
Voilà. Il ressemble au Maine Coon en plus petit, mais c'est un chat qui est très grand. C'est fait partie des chats géants. Et c'est vrai qu'il concurrence un petit peu le Maine Coon, qui est le chat préféré des Français aujourd'hui.
C'est vrai qu'il est un grand chat, on va dire.
Un grand chat avec des poils longs.
Et qui parfois a un comportement de chien aussi.
Hein, un chat chien. Mais le chat des forêts norvégiennes
aussi
ressemble un petit peu aussi au caractère du Maine Coon.
Laetitia, il est 7h51. On va maintenant accueillir Shiny. Bonjour Shiny.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, à l'occasion de la diffusion mercredi, dans 3 jours, à 20h50 sur France 3, du documentaire Muriel Romain et Shiny sur la terre des bonobos.
Et on écoute tout de suite un petit extrait.
Ma destination, les abords du fleuve Congo, au cœur de l'immense forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. Quelque part sous ces arbres, je vais à la rencontre des derniers singes bonobos. Mais surtout d'un petit survivant. Un orphelin recueilli par les humains. Il s'appelle Kinsele. Il a besoin d'aide pour retourner vivre libre avec les siens. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais mettre tout mon cœur pour qu'il y parvienne.
Voilà, on entend la voix de Muriel Robin.
Bien sûr.
Alors, Chani, vous avez fondé, vous, votre association qui s'appelle Calaouette il y a 20 ans. Et 20 ans, c'est aussi la durée de l'amitié avec Muriel Robin. Parce que Muriel Robin est marraine de votre association. Elle a été décisive dans votre vie. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a parlé de l'association Calaouette sur cette antenne, c'était avec Muriel Robin qui nous en parlait. Oui. Alors, dites-nous comment... racontez-nous votre rencontre avec Muriel.
En fait, c'est à l'époque, j'ai 16 ans, je passe tous mes mercredis dans le zoo proche de chez moi pour aller observer les gibbons. Et puis, je publie un petit bouquin sur le comportement des gibbons. Il y a un article dans la presse. Muriel tombe sur cet article où je dis, entre autres, que j'en ai un peu ras-le-bol de la captivité, que je veux partir en Asie voir les vrais gibbons, les sauvages. Donc, elle décide d'appeler mon éditeur pour avoir mon numéro de téléphone. Et un jour, je rentre du lycée, le téléphone sonne. C'est Muriel qui me dit, j'ai lu un article sur toi, tu veux partir sauver les gibbons, eh bien tu pars, je vais t'aider et je serai toujours là. Et c'est comme ça que moi, à ce moment-là, donc elle me donne des ailes et puis surtout je raccroche le téléphone et je me dis, si des choses comme ça peuvent arriver, je n'ai plus besoin d'avoir peur en l'avenir, il faut que je fonce. Et elle m'a donné cette force-là. Et puis elle est d'une très très grande fidélité, puisque 20 ans plus tard, elle est toujours là à veiller au grain.
Elle peut être quand même fière de votre parcours, hein, parce qu'à l'époque, donc, vous aviez 16 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une association qui est reconnue mondialement. Vous avez le plus grand projet de réhabilitation des gibbons au monde. Elle est venue plusieurs fois vous voir en Indonésie ?
Elle n'est pas encore venue.
Non, elle n'est pas encore venue.
Donc, ça en est devenu une petite plaisanterie, parce que moi, je l'attends depuis juste 20 ans, quoi. Et il faut que, par le biais de cette nouvelle émission sur France 3, on se retrouve au Congo, pas du tout
au
en
Congo,
Indonésie, et sur les bonobos. Donc, c'était un petit côté rigolo, mais je perds pas espoir. J'espère la voir arriver un jour déboulée à l'improviste à Bornéo.
Non, elle viendra un jour, j'en suis sûr.
Oui, je perds pas espoir.
Alors, justement, dans ce documentaire, vous avez amené Muriel Robin en République démocratique du Congo pour découvrir les singes bonobos avec l'association Lolaya Bonobo.
Lolaya Bonobo.
Voilà. Alors, quel était le but vraiment de ce voyage?
Le but de ce voyage, c'est évidemment dans le cadre de cette émission, c'est de porter un regard un petit peu nouveau sur la problématique de la sauvegarde des animaux sauvages et de la nature. En fait, bon, là, on s'intéresse aux bonobos avec un format qui est léger. C'est Muriel Robin, il y a l'humour de Muriel. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri, évidemment, pendant tout le tournage. Mais c'est aussi un moyen détourné de sensibiliser le téléspectateur sur une problématique, celle des bonobos, qui sont quand même des singes très en danger et pourtant si proches de nous. Et je trouve que c'est un très, très bon compromis. Et c'est exactement comme ça que moi, j'aime parler, en fait, de la défense des animaux, ce que je fais en Indonésie via la radio Kalawet, via les médias. C'est-à-dire fédérer autour de soi en me disant, voilà, mais sauver des animaux, c'est fun, on rigole, c'est une aventure, il y a des choses dures, mais il faut se concentrer sur le positif. Et c'est exactement ce format-là qui se met en place maintenant sur France 3 avec Sur la Terre.
Alors, vous lui donnez comme mission à Muriel Robin d'aider un petit bonobo orphelin. Alors, c'est extrêmement... Elle est vraiment très touchante, Muriel Robin. Elle est très touchée aussi. Hein. On a l'impression qu'il y a eu un coup de foudre entre elle et ce petit singe.
C'est ça, c'est qu'elle est tellement, comment dire, à fleur de peau au niveau des émotions.
C'est vrai qu'elle est très sensible.
Voilà, et donc du coup, avec les singes, ça passe très très bien, et Kinsey l'a vraiment ressenti. Il s'est senti en confiance, et il s'est senti aussi touché, parce que les bonobos sont capables d'empathie, et en fait, c'est des éponges, ils vont absorber comme ça nos émotions. Et c'est vrai que cette relation s'est formidablement bien passée, et pour moi, faire comprendre à Muriel la problématique des bonobos, ça passait obligatoirement par une immersion dans le travail formidable de Lolaya Bonobo, c'est-à-dire comment s'occuper de Kinsey à un moment très clé dans son processus de réhabilitation, puisque c'est le moment où Kinsey va devoir quitter les mamans de substitution, les mamans humaines, pour la première fois rentrer en contact avec ce qu'ils appellent des tantines bonobos, c'est-à-dire des bonobos adultes, puisque si un jour Kinsey retrouvera la liberté, ce sera dans un groupe. Donc c'est une étape charnière, et c'est là où Muriel lui a servi de repère. Et c'est vrai qu'elle a excellé dans cette position.
C'est très très beau. Je vous engage vraiment à regarder ce documentaire. Alors, après Véronique Jeannot auprès des gibbons en Indonésie, Muriel Robin auprès des bonobos en Afrique, est-ce qu'il est prévu un troisième volet de cette série documentaire avec une autre star?
Oui, eh bien, il y a un petit changement, c'est-à-dire que fort de cette expérience magique avec Muriel, eh bien, on va faire toutes les autres émissions ensemble.
Ah, c'est vrai.
Ça sera Muriel et Chani, voilà, sur la terre des éléphants notamment, et puis avec plein d'autres destinations. Donc, comme dit Muriel, elle devient l'Adriana Carambeu de Chani.
Alors, Muriel Robin en Adriana Carambeu, mercredi soir sur France 3. Muriel Robin et Chani sur la terre des bonobos, c'est un documentaire vraiment superbe. Moi, je vous engage à le regarder. C'est très bien. D'abord, on est sensibilisé aux bonobos. Et puis, c'est vrai, on passe un très bon moment, très touchant avec Muriel et avec vous.
Merci, Chani.
Merci Chani.
Et donc rendez-vous mercredi.
Et Chani, on peut le voir cet après-midi sur France 2, dans l'émission de Michel Drucker aussi.
Magnifique. Bon, Laetitia, on va se dire au revoir, mais avant de terminer ce rendez-vous animaux, notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin, tout à l'heure on parlait de Titanic.
Oui.
C'est vrai. Et donc de ce machiniste de Titanic qui a été sauvé par son chat, par un chat en fait qu'il a vu sortir du bateau avant qu'il ne s'en aille. Il s'est dit, oulala, il y a un chat qui s'en va, moi je monte pas dedans. Il a bien fait. Eh bien là, on a retrouvé une petite vidéo qui met en scène, si vous voulez, des chats qui refont Titanic.
C'est C'est-à-dire ?
Ah ben, je ne vais pas tout vous raconter. Il faut aller sur la page Facebook de vos animaux sur RMC.
Je vais aller sur la page
sur j'aime.
Facebook
de vos voilà.
Je vais cliquer
voyez
sur j'aime.
Vous voyez Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ?
Oui.
Eh bien, imaginez-les en chat. Voilà, et ça donne cette petite vidéo.
J'imagine le pire quand même.
Ah, on n'est pas loin. Voilà. On se retrouve dimanche prochain, Laetitia.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous embrasse. À dimanche prochain.
Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui sera là. Monsieur Moreau, Jean-Luc.
Bonjour, messieurs, dames. Oui, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de Mégane.
Oui.
Donc, on parlera de Renault, nous, de Safrane,
pardon. Safrane.
Ouais, ouais. On parlera de Safrane, voilà.
Et Safrane, ça n'existe plus, si.
Non, ça n'existe plus, mais on parlera de Renault, par
oui,
contre,
voilà,
dans la deuxième
bien
heure.
Parfait. La météo des infos, Jean-Luc Moreau me rejoint pour 2 heures dédiées à l'automobile. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.